je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique.
Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique. Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, midi 30 sur 48 FM, bienvenue pour une nouvelle heure d'Happy Hour. Aujourd'hui, on va parler éducation à l'environnement et gestion de l'eau, thème au cœur des rendez-vous du Papillon Fringant. C'est un événement proposé pour la troisième fois cette année par le Réel 48 et qui s'étale du printemps jusqu'à l'automne. Cette troisième édition, elle a démarré début avril et elle se décline comme des moments de partage au fil de l'eau, c'est le nom de cette troisième édition. Au total, pas moins de 80 événements organisés aux quatre coins du département, et ce, jusqu'au mois de novembre. Découverte des paysages naturels, expositions, conférences et avant tout des ateliers pratiques pour échanger savoir et savoir-faire en faveur de la transition écologique. En somme, des rendez-vous pour permettre à chacun et chacune d'agir à son échelle au quotidien. Pour en parler, nous avons trois invités. Olivier Cagna, directeur du Réel 48, Pauline Sabirou, animatrice au Jardin de Cocagne, et Guillaume Canard, directeur du syndicat mixte Lot-Dourdou. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis bien sûr, sans plus attendre, on présente aussi notre chroniqueur invétéré, Cyril. Salut à toi.
Salut.
De quoi tu vas nous parler alors aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va parler de philosophie.
De philosophie, très ouais. Bien. Olivier Cagna, on va commencer avec vous en votre qualité de directeur du Réel 48. Troisième édition donc des rendez-vous du Papillon Fringant qui dure jusqu'à l'automne. Déjà pour commencer, il symbolise quoi ce papillon ? C'est aussi le logo d'ailleurs du Réel 48.
Ben en effet, c'est un peu ça historiquement. Hein. Donc le Réel existe depuis plus de 22 ans maintenant. Et donc ça a toujours été le papillon qui a été revisité. Et donc effectivement, ce Papillon Fringant, il symbolise l'association, le Réel, donc le réseau d'éducation à l'environnement de la Lozère, qui est aussi labellisé donc CPIE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Et donc voilà, ça représente un peu tout ce réseau. On est composé de 50 associations, peut-être même plus cette année, en 2023, puisqu'on, comme on le voit, on se diversifie au niveau de l'éducation à l'environnement. Ça touche maintenant plusieurs secteurs, notamment aussi le secteur artistique, et donc en complément du secteur, on va dire, naturaliste. Voilà. Et donc ce papillon, c'est toute cette mosaïque de compétences que représente le Réel.
Et le terme, l'adjectif fringant, c'est pourquoi ?
C'est pour donner un petit peu de dynamisme, de peps, c'est pas pour le donner, mais c'est pour en termes, voilà, pour faire reconnaître un peu ce côté un peu jovial de l'événement.
Et rappeler le côté vivant aussi peut-être de tout ce que vous proposez. Comment cette idée des rendez-vous du papillon fringant a-t-elle éclos ? On va rester dans le thème des papillons.
Alors, comme vous l'avez dit, ça fait 3 ans, enfin c'est la 3e édition cette année. Et particulièrement cette année, on a voulu y donner une ampleur significative avec 80 dates accueillies sur 40 lieux différents en Lozère avec 35 intervenants sur cette année. Il est né donc... d'une envie d'aller vers le grand public. C'est-à-dire que souvent, on considère que l'éducation à l'environnement, c'est les scolaires, c'est les enfants. Mais en fait, les enfants, ils sont souvent bien plus sensibilisés que les adultes. Et donc, on a voulu, voilà, vraiment aller sur ce côté, ce qu'on appelle mobiliser, encourager la participation et surtout encourager le passage à l'action des gens, puisqu'il y a des choses très simples à faire à notre échelle. Voilà, on entend au quotidien parler des enjeux environnementaux, de la transition écologique, voilà, des grands mots, mais tout ça, en fait, ça peut, à son échelle, à notre échelle, c'est au quotidien qu'on peut agir par des tout petits gestes qui font au final beaucoup.
Voilà. Elle est née, je crois, la première édition en 2021, c'est bien ça,
hein ? Oui, c'est bien ça.
Est-ce que le contexte de la crise sanitaire, ça a joué dans la volonté de créer un événement comme celui-là ?
Bonne question. En tout cas, ça nous a permis de bien y réfléchir, effectivement, puisque c'est né dans ce contexte-là, avec des difficultés, hein, bien sûr, en 2020 pour toucher le grand public. Mais non, je dirais que c'est plus par rapport à une certaine urgence et une envie. d'aller vers des publics qu'on n'a pas l'habitude de toucher et donc voilà de proposer aussi des événements qui sont un peu décalés, on va dire, qui peuvent où l'entrée principale reste quand même l'environnement, la découverte. Enfin après on pourra
on va y revenir plus en détail.
Mais voilà, l'idée c'était bien de que tout le monde puisse avoir accès à cette sensibilisation.
Se sentir impliqué. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi alors d'étaler ça, pardon, sur le temps long, donc ça, c'est du printemps jusqu'à l'automne. Mm-hmm. Pourquoi cette temporalité?
Parce que en fait, les intervenants, voilà, 80 dates, c'était très ambitieux, effectivement. Et d'ailleurs, j'en profite sur ce côté ambitieux pour remercier les partenaires,
donc l'agence de l'eau, on les cite,
oui, effectivement, l'agence de l'eau qui participe beaucoup à ce projet-là, le SDE, la région Occitanie et le département, mais tous viennent alimenter un projet commun en fait. Ce projet commun, c'est les rendez-vous du papillon fringant, c'est un programme d'animation départementale et effectivement, pour avoir 80 dates, on a fait le choix de l'étaler. On n'a pas voulu non plus qu'il soit que estival parce qu'enfin, on sait qu'en Lozère, voilà, le côté estival, ça, on va dire, il y aura plus de fréquentation, mais on a voulu aussi s'adresser directement aux locaux, et c'est notre principale cible, hein, de s'adresser à la population locale, et aussi de s'appuyer, voilà, sur des associations locales. On a, comme je disais, 40 lieux qui nous accueillent, ça va de foyers ruraux, en passant par des associations de jardiniers, voilà. Et donc, ça nous semblait important de pouvoir l'inscrire dans le temps et dans la durée, et c'est vraiment un test, on va dire, cette année-là, avec autant d'animation. On va le reconduire parce qu'on voit déjà qu'il y a une attente et qu'on n'est pas complet sur toutes les animations. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à toutes les infos. Enfin, on dira plus tard comment s'inscrire. Mais voilà, donc l'idée, c'est de s'étaler effectivement sur toute l'année pour que tout le monde puisse y avoir accès. Ouais.
Je le disais en introduction, les rendez-vous du papillon fringant, vous le venez de le redire d'ailleurs tout juste, c'est donc plus de 80 événements cette année organisés partout sur le département. Donc c'est à la fois pour toucher le plus grand nombre, mais aussi pour prendre en compte la diversité environnementale du territoire, j'imagine. Quel type d'espace il s'agit de mettre en avant? Est-ce qu'il y a des visites, par exemple, organisées pendant ces rendez-vous?
Oui, bien sûr, il y a des visites. Alors ça me fait penser à la politique du département sur les espaces naturels sensibles qui sont intégrés dans ce programme départemental. Donc ce sont des lieux remarquables en Lozère. Je crois qu'il y en a une quinzaine pour l'instant de définis et accessibles. En parallèle, voilà, on travaille à la rédaction, enfin à l'édition de livrets pédagogiques sur ces sites-là. Les sites, il y a le domaine de Boissé, il y a différents lacs dans le nord Lozère,
le
lac de Saliens, de Bonnecombe, effectivement.
Il y a le site des mégalithes des Bondons aussi,
oui,
je crois.
Oui, c'est ça, voilà. Donc ça, c'est la partie site naturel sur lesquels on s'appuie. Et à côté de ça, voilà, on va aller dans des endroits, je dirais, ordinaires, des jardins de particuliers, ou même, on a aussi des événements type cinéma-débat. Donc on va aussi intégrer, enfin, ce n'est pas des lieux naturels, mais voilà, ça fait...
C'est
du culturel. Et aussi, sur des balades aussi décalées où on va associer un artiste type théâtre avec un guide naturaliste, où on peut aussi associer du violon sur des balades musicales tout en étant immergé dans la nature. Donc on a vraiment cherché à avoir cette mixité et cette approche effectivement une autre approche pour faire découvrir les sites naturels, pas uniquement sur le côté biodiversité, mais aussi sur le côté sensible.
Mmh. Justement, sur ces espaces qu'on doit préserver, ces espaces naturels sensibles, est-ce qu'on peut limiter notre impact en les fréquentant quand même? Et si oui, comment? Qu'est-ce que vous apprenez en fait aux gens qui viennent pendant ces visites?
Alors, les espaces naturels sensibles sont protégés, oui et non, parce que souvent ils appartiennent à des privés, à des particuliers. Donc il faut déjà que et sur certains de ces sites-là, effectivement, il y a des sentiers qui sont balisés. Il peut même y avoir des aménagements de fait pour rendre ces sites remarquables, accessibles au public. Donc ça fait partie. Ce n'est pas une réserve naturelle. À la différence, voilà, il faut faire la différence entre une réserve naturelle qui peut être interdite au public pour des questions de préservation de la biodiversité. Là, en l'occurrence, on est plus sur une dimension découverte d'un milieu naturel, donc accessible.
Voilà. Parmi tous les ateliers proposés au cours de ces rendez-vous du Papillon Fringant, il y a des ateliers que vous animez, vous, Pauline Sabirou. Donc vous êtes, je le rappelle, animatrice au Jardin de Cocagne. Donc, petit rappel, Jardin de Cocagne, c'est un chantier participatif... Corrigez-moi.
Oui. Alors du coup, le Jardin de Cocagne-Lozère, c'est une structure d'insertion professionnelle dont le support est le maraîchage biologique. Donc, qui dit maraîchage, dit forcément utilisation de l'eau aussi dans un jardin, dans le jardin. Et...
Alors attendez, oui, juste préciser où ça se situe. Ça se situe à Payers. Et oui, excusez-moi, c'est avant tout un centre de réinsertion professionnelle via la culture, enfin le... Comment on peut appeler ça? Oui, le maraîchage, voilà.
Voilà.
Et donc, vous êtes mandaté, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas sollicité par le Réel 48 pour participer à ces ateliers proposés pendant le rendez-vous du Papillon Fringant. Et il y a notamment donc des ateliers sur le jardin. Qu'est-ce qu'il s'agit, pendant ces ateliers, comment il se passe en fait? Qu'est-ce qu'il s'agit d'apprendre aux participants?
Alors du coup, comme disait Olivier, donc Olivier, le CPE travaille en réseau. Donc nous sommes adhérents du Réel. Et le Réel, en fait, quand il répond à des projets, il sollicite les adhérents. Donc le Papillon Fringant 2023, ça s'est passé comme ça. Ils nous ont sollicité en disant, ben voilà, cette année, on propose le Papillon Fringant sur la thématique de l'eau. Est-ce que ça vous intéresse? Donc forcément, nous, étant structure d'insertion professionnelle dans le maraîchage, on s'est dit, ben en fait, l'eau, c'est un peu notre quotidien. Sachant que nous, à Cocagne, justement à Payers, on a un peu des problématiques d'eau. Parce que l'eau, c'est l'eau de source, on n'a pas d'eau potable directement sur le site. Donc depuis 10 ans maintenant que le jardin existe, on développe des techniques pour justement limiter l'utilisation de l'eau dans le jardin. Et concrètement, comment ça passe, c'est les animations. Donc moi, en tant qu'animatrice environnement, je n'ai pas non plus tous les savoirs. L'idée, en fait, c'est vraiment un moment de partage avec le grand public. Parce que cette année, depuis quelques années, justement, c'est axé sur le grand public. Donc l'idée, en fait, c'est de faire venir les gens au jardin de Cocagne et qu'on puisse ensemble faire le tour du jardin. Parce que, comme je disais, depuis 10 ans, on développe des techniques pour limiter l'utilisation de l'eau, comme les gouttes à gouttes, les asperceurs, des cuves, des récupérateurs d'eau. Et l'idée, c'est de faire un tour et de discuter. Ah ben voilà, regardez-vous comment vous faites dans votre jardin. Bon, bah moi, je fais comme ça. Bah nous, à Cocagne, à l'échelle d'une grande structure, quand même, parce que c'est du maraîchage, eh bah, on a mis en place des gouttes à gouttes, des asperceurs. Et l'idée, c'est vraiment de discuter, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, en tant qu'animatrice, je suis pas là pour dire ce que vous faites, c'est mal, et ce que nous, on fait, c'est bien. C'est vraiment un moment de partage et de convivialité, et des remises en question sur ce qu'on peut faire au quotidien. Parce qu'on est en Lozère et du coup, je pense que les trois quarts des personnes ont un jardin. Et on est tous et toutes impactés par cette problématique de l'eau. Et du coup, voilà, je trouve ça important et intéressant de pouvoir discuter ensemble des techniques qui existent, de ce que font les gens chez eux, pour aussi apporter un peu de connaissances au groupe. Mais voilà, c'est surtout des échanges.
Sans culpabiliser, j'imagine que c'est aussi d'ailleurs toute la politique des rendez-vous du Papillon Fringant. Il ne s'agit pas de...
Mais c'est super important justement ce que vous dites sur la culpabilisation, parce qu'on a trop tendance à dire ce que tu fais c'est bien, et ce que nous on fait c'est mal, et c'est pas du tout le but des animations, du moins dans l'environnement, parce qu'on est tous impactés par cette problématique-là. Et l'idée c'est juste d'avoir un lieu de recueil où on peut discuter, échanger, et pourquoi pas découvrir aussi des techniques qu'on ne connaissait pas.
Justement, en parlant de techniques qu'on ne connaît pas, il y a un atelier que vous allez animer le 11 juin. Donc ça se passera, c'est à la découverte des jardins partagés de Chanac. Et vous allez proposer des constructions de plusieurs petits habitats, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Vous pourriez vous en dire
voilà.
Un peu plus.
Alors le 11 juin, le 11 et 12 juin, c'est un événement qui est national. Il s'appelle Bienvenue dans mon jardin au naturel. Donc c'est un événement qui est national. Nous, on a décidé d'y répondre avec l'association Horterius, qui est basée justement à Chanac. C'est une toute jeune association qui a vu le jour là, il y a à peu près même pas un an. Et l'idée, justement, c'est de voir dans des jardins partagés aussi comment on peut amener cette problématique de l'eau. Donc l'idée, voilà, c'est peut-être de construire des lasagnes potagères. Il y a une source, une rivière qui coule aussi à côté. C'est quels sont les impacts aussi si on prend trop d'eau. Aussi toute la question de la légalité, enfin des lois entre guillemets de pomper l'eau dans une rivière. Bon voilà, l'idée c'est vraiment d'ouvrir ces jardins-là au grand public.
Et pour parler donc de l'atelier qui sera vraiment consacré à cette thématique de l'eau, c'est le 1er juillet. Ça se passera où? Je ne l'ai pas noté.
Le 1er juillet, du coup, c'est avec l'association Jardin Nature 48. Et ce sera chez Catherine Permet et Raymond Grasse, au lieu dit Maison Neuve à Espagnac.
Voilà, donc c'est apprendre à cultiver sans eau ou presque. Voilà. La question de la ressource en eau, c'est un élément central, même fondamental dans les questions environnementales. Veiller à sa préservation tout en garantissant sa bonne qualité, c'est la mission du syndicat mixte Lot-Dourdou, dont vous êtes le directeur Guillaume Canard. Donc le syndicat mixte a été créé en 2014, il regroupe trois syndicats de rivières entre la Lozère, l'Aveyron et le Cantal. En tout, vous couvrez 14 communautés de communes, ce qui représente 121 communes en tout. Est-ce que vous pourriez nous dire combien ça représente de kilomètres de cours d'eau, si on peut parler comme ça?
Alors, c'est un peu compliqué à mesurer parce qu'on a sur les têtes de bassin tout un petit chevelu qui n'est pas forcément complètement référencé. Alors, on peut surestimer ou sous-estimer, mais grosso modo, donc on a un bassin versant qui fait 3000 km². Donc on couvre, et sur cette surface-là, on a à peu près 3000 km de cours d'eau. Okay.
Voilà. Et en Lozère,
on est dans cet ordre de grandeur-là, quoi. On est sur 1000... Faut que je regarde les chiffres, mais c'est à peu près...
1600 mètres cubes, hein, c'est ça. Moi, j'avais
1600 mètres carrés de surface, donc 1600 km de cours d'eau, quoi, environ.
Est-ce que peut-être vous pourriez nous préciser votre rôle du syndicat mixte?
Alors le syndicat mixte, en fait, c'est une collectivité qui regroupe donc dont les adhérents sont les communautés de communes. Donc vous l'aviez dit, hein, 14 communautés de communes. Et le but, c'est à la fois de conseiller les communes, les communautés de communes ou d'autres collectivités. Hein, ça peut être, voire même l'État, dans certains cas. On apporte des éléments qui permettent d'aider, notamment sur les parties aval du bassin. Il y a des secteurs qui sont en domanial, c'est-à-dire le Lot est navigable à partir en dessous de Conques-en-Rouergue. Et donc, c'est l'État qui est en charge de l'entretien du Lot à cet endroit-là. Donc, on les accompagne. Et ensuite, on accompagne aussi les propriétaires pour du conseil, quoi. Mmh. En lien avec les cours d'eau. Et donc, à l'origine, en fait, le syndicat avait pour but surtout... surtout pour la partie Lozère, on avait des assainissements qui étaient assez défaillants dans les années 80-90. Et l'origine de la création de ce syndicat-là, c'était surtout pour travailler sur l'assainissement, quoi. Donc ils ont fait un gros, même si c'est pas le cœur du métier, c'est plutôt les communes et communautés de communes, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Mmh. Eau potable et assainissement, il apportait une grosse étude à l'échelle du bassin pour savoir les travaux qu'il y avait à faire au niveau assainissement. Puis après, dans les années 2000, on a plus travaillé sur le volet inondation. Et puis on a eu les crues de 94-2003 qui ont beaucoup marqué. Et donc c'est vrai que là, ça fait quand même quelques temps qu'on travaille sur le sujet de l'inondation. Et de plus en plus, on élargit le panel d'activité sur le bassin versant pour réduire l'impact, quoi, hein, des activités humaines dès la source, quoi. Mmh. Donc il y a tout un travail à faire aussi bien avec les agriculteurs, les préleveurs d'eau pour l'eau potable, etc., quoi.
Peut-être question qui s'adresse à Guillaume Canard notamment, pourquoi avoir choisi l'eau cette année particulièrement pour ce thème? Oh pardon, pas Guillaume Canard, oh là là, je mélange
Olivier,
les prénoms,
y a pas de
pardon.
L'eau, alors effectivement, c'est un peu historique aussi, c'est que le changement climatique, ça devient une problématique visible en fait, hein. Jusqu'à il y a encore 3-4 ans, on en parlait beaucoup, beaucoup moins qu'aujourd'hui, et puis c'est aussi Comment dire, parce que l'agence de l'eau est partenaire du projet et que c'est un sujet
c'est
qui
est en Lozère. C'est une directive, donc.
C'est pas que c'est une directive, c'est un choix, c'est un partenariat. Ouais. Et du coup, en Lozère aussi, hein, on sait qu'il y a les assises de l'eau qui sont portées à la fois par la préfecture et le département. C'est une grosse instance de concertation où tous les acteurs sont là autour de la table. Donc c'est vraiment un sujet en Lozère. Il faut savoir qu'en Lozère, on est un château d'eau. On va dire, on ne reçoit aucune eau qui vient d'ailleurs. On est aussi appelé le département des sources parce que voilà, ça, on alimente donc les trois bassins versants que sont la Loire, la Garonne et le Rhône en partie sur le sud. Donc voilà, l'eau est vraiment en Lozère quelque chose de et puis on le voit aussi à travers la richesse de nos rivières. C'est aussi reconnu pour être un très beau secteur de pêche, la Lozère. Malheureusement, voilà, on a des épisodes de sécheresse qui fragilise toute cette ressource-là. Et donc, voilà, c'est un sujet qui nous semble aussi transversal. Parce que quand on parle de changement climatique, comme on le voit, on peut parler aussi bien du jardin, on peut parler de l'eau dans la maison, comment à son échelle on fait des choses, mais on peut aussi parler de la forêt, de l'agriculture. Enfin, voilà, oui, c'est un sujet aussi très transversal qui nous permet, voilà, d'aller aussi explorer des zones un peu plus limitrophes que seulement le sujet de l'eau.
Oups, c'est pas grave. Guillaume Canard, je revérifie bien les prénoms cette fois. Peut-être préciser c'est quoi vis-à-vis de l'agence de l'eau, vous comment ça marche, vous collaborez j'imagine ensemble.
Alors l'agence de l'eau c'est notre principal financeur. En fait l'agence de l'eau c'est une structure, c'est un service décentralisé de l'État. Le but de cette structure, c'est de récupérer des fonds tous ceux qui prélèvent de l'eau ou qui la polluent, même si après ils la traitent. Hein, mais donc, il y a des taxes par rapport à l'industrie, par rapport à l'agriculture, par rapport à l'eau potable. Quand vous avez une facture d'eau, il y a une taxe qui revient à l'agence de l'eau. Et donc tout cet argent permet ensuite de financer des projets, quoi. Donc c'est des projets pour les stations d'épuration, pour renaturer des cours d'eau, pour faire différentes opérations en lien avec soit les milieux aquatiques, l'environnement, ou des aides comme ça à la sensibilisation. Donc c'est vrai que ce soit le réel ou nous, c'est un partenaire majeur.
Oui. Et puis ça gère aussi à une échelle, là on parle de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, donc on a une vision qui va de la Lozère jusqu'à l'océan. Et ça c'est assez, c'est aussi cette structure-là qui permet d'avoir cette vision d'ensemble, une goutte... Voilà, nous, des fois, on met des pochoirs sur « ici commence l'océan » en Lozère, ouais. Mais c'est aussi pour donner cette notion de bassin versant, que quelque chose qu'on fait en Lozère va avoir peut-être une répercussion jusqu'à Bordeaux.
C'est ça. Au syndicat mixte Lot Dourdou, donc vous avez en fait la compétence de gestion des milieux aquatiques, hein, c'est le terme... comment on peut appeler ça, formel, on va dire. Et donc, du coup, vous veillez à garantir une bonne qualité de l'eau sur les territoires. Comment on évalue ça, la bonne qualité de l'eau ?
Alors, ce n'est pas nous directement qui le faisons, c'est justement l'agence de l'eau, hein, qui a des stations réparties sur le bassin versant. Donc, tout ça est choisi à une échelle... l'échelle à Dour-Garonne, hein, donc c'est le Grand Sud-Ouest. Ce sont des bureaux d'études mandatés par l'agence de l'eau qui suivent l'état, entre guillemets, des cours d'eau, quoi. Donc les paramètres qui sont suivis sont vraiment très multiples, hein. On a des suivis qu'on appelle physico-chimiques, donc c'est les nitrates, les phosphates, les métaux lourds. Et ensuite, on a une partie qui est moins... qui est plus sur la biologie. Il y a un inventaire des algues, un inventaire des macro-invertébrés aquatiques, un inventaire des poissons, etc. Oh. Et tout ça nous permet d'avoir des indicateurs qui nous permettent de dire si oui ou non le cours d'eau est en bon état. Et en complément de ce réseau-là, on a un réseau départemental aussi qui apporte des compléments. Donc en amont et aval des stations d'épuration, par exemple, etc. Et tout ça vient compléter ces données. Et, alors, nous, on les exploite beaucoup, toutes ces données, pour savoir comment agir. Et si on voit des problèmes, et ben, comment les résoudre, quoi. Mmh.
Peut-être préciser avant, parce qu'on va parler du programme de gestion des milieux aquatiques que vous établissez aussi. Quels sont les principaux facteurs donc en Lozère qui contribuent à la dégradation des cours d'eau ?
Alors on a quand même une chance, il faut le dire, c'est qu'en Lozère, Alors bon, je vais parler pour mon bassin, parce que moi je connais surtout le bassin du Lot et je voudrais pas commettre d'impair. Moi, quoique pour le Tarn, c'est pareil, hein, le Tarn est quand même en bon état, et le Lot globalement aussi, quoi. Ce qui peut dégrader, c'est... peut-être des incivilités parfois, ça peut arriver, ça peut être très ponctuel. En aval de Mende, par exemple, on avait repéré une molécule qui est utilisée habituellement pour le désherbage. Donc ça peut venir aussi bien du monde agricole, encore que c'est peu sûr à cet endroit-là, ou alors des produits qui sont utilisés pour les anti-mousses des toitures, par exemple. Donc ça peut être des choses comme ça. Après, c'est là où le travail avec L'Oréal est vraiment important, parce que c'est important aussi de toucher tout le monde. C'est par exemple, la ville de Mende est en train de mettre tout son réseau en mise en séparatif. C'est-à-dire que quand vous tirez la chasse d'eau, ça part à une station d'épuration. Et par contre, le réseau de pluie, la goutte d'eau qui tombe sur une rue, avant elle partait aussi à la station d'épuration. Ouais, ça, c'était le réseau unitaire.
Il y a un dispositif qui est en train de vouloir récupérer ces eaux de pluie, c'est ça ?
Voilà, donc maintenant on sépare ça. Donc le réseau de pluie part directement au cours d'eau et puis tout ce qui est eau domestique reste à la station, bien sûr. Mais ce qui fait que certaines personnes avaient des habitudes de jeter des choses dans les bouches d'égout qui partaient ensuite à la station. Mais c'est plus le cas, quoi. Donc ça peut être un manque d'information, mais c'est aussi de la sensibilisation, quoi. Et c'est vrai que parfois on voit, il n'y a pas que les particuliers, parfois c'est des entreprises qui sont mal informées, qui jettent leur pot de peinture aux égouts. Ça, il faut surtout plus le faire, quoi.
Et vous avez aussi donc ce rôle un peu de sensibilisation auprès de différents acteurs, donc les citoyens, les industriels, les agriculteurs, en plus
exactement.
Des collectivités.
Ouais.
Entendu. Je propose qu'on fasse une toute petite pause avec toi, Cyril, et on t'écoute pour ta chronique.
Oui, alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite chronique où on va parler de philosophie. Alors je ne sais pas trop c'est quoi votre lien avec, si vous en avez fait au lycée ou autre. Enfin, à titre personnel, moi j'ai toujours eu du mal. Et pourtant j'étais en littéraire. Enfin, faut dire que les cours, des fois, c'est peut-être pas forcément le plus attractif, le plus vendeur. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et en plus, on les voit comme une contrainte très souvent. Mais bon, il se trouve qu'un jour, je traînais un petit peu sur Instagram et je suis tombé sur le compte d'un artiste qui a récemment sorti un livre. Cette personne s'appelle donc Joachim Sanselme. C'est d'ailleurs le nom de son compte. Et son compte, qu'est-ce qu'il propose ? Eh ben, il y fait des strips, c'est des sortes de petites bandes dessinées d'une dizaine de cases environ. Où il va exposer une pensée de philosophie ou de psychologie. Et c'est toujours d'un point de vue assez moderne, avec des exemples qui sont modernes, compréhensibles, pédagogues. C'est très clair, quoi. Donc on l'aura compris, si vous n'êtes pas des adeptes de la philosophie, comme moi, mais que vous aimeriez vous y intéresser, c'est un très bon compte à consulter. Ça peut être une très bonne porte d'entrée. Et cet artiste a donc récemment, sorti un livre qui s'appelle Intimité. On peut y retrouver certains de ses strips qui sont déjà sur son compte Insta, mais aussi beaucoup de qui sont exclusifs, notamment un où il s'intéresse donc, pour donner des exemples, aux personnes qui adorent donner mais qui détestent recevoir. Enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est fait quand même aussi avec beaucoup d'humour, et il va permettre, avec ses BD, d'analyser un petit peu nos manies, nos questions intimes qu'on se pose parfois quand on est seul, ou des concepts par rapport à autrui ou au monde, ou aussi à mieux comprendre des fois ses propres émotions. C'est varié, c'est très varié. Mais bon, sur son compte Insta, on peut déjà trouver énormément qu'il y a dans ses BD. Ça peut déjà être très intéressant aussi de le consulter. On trouve des sujets comme par exemple la peur du silence dans les conversations, le narcissisme ou encore l'importance du small talk, ces petites conversations qui sont a priori inutiles et banales, genre « Ah, il fait beau aujourd'hui !»
Mais qui sont très utiles.
Ah, qui sont très très utiles. Bah, d'ailleurs, « Il fait beau aujourd'hui », c'est... Enfin, ça peut aussi servir à dire comment on se sent aussi un petit peu à l'intérieur de soi. Bref, et puis tout simplement pour briser la glace et tant d'autres choses. Bon, enfin, ce que je dis comme ça, en tout cas, ça fait peut-être pas forcément trop rêver, mais je vous jure que ça vaut le détour. Déjà parce qu'il a un style de dessin qui est bien à lui, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est ensuite parce que se poser des petites questions philosophiques, après tout, bah, ça fait de mal à personne. Ça peut toujours permettre de voir différents points de vue, trouver des accords, des désaccords. Ça permet toujours d'exposer un petit peu ses idées, de les faire s'affronter. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est un conte qui m'a fait m'intéresser à la philosophie, et c'était pas gagné. Donc je peux que vous conseiller de visiter le compte de Joachim Sanselm, et si le cœur vous en dit, d'acheter sa BD, parce qu'on ne sait jamais, si comme moi vous étiez fâché avec ces sujets-là, ça pourrait peut-être vous réconcilier. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite.
Eh bien, tout pareil. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre et l'auteur ?
Oui, alors, ça s'appelle Intimité, et l'auteur, c'est Joachim Sanselm.
Allez, parfait. Merci beaucoup, Cyril.
De rien.
On poursuit sur notre discussion, donc consacrer cet Happy Hour au rendez-vous du papillon fringant porté par le Réel 48, avec un petit axe sur la gestion de l'eau, notamment dans notre département. Donc je me retourne de nouveau vers vous, Guillaume Canard, donc directeur du syndicat mixte Lot-Dourdou. L'un des objectifs de vos missions, c'est d'assurer en tout cas l'accès à l'eau pour toutes et tous, et quels que soient les secteurs, ou qu'on soit citoyen ou industriel ou agriculteur. Donc ça pose la question de la gouvernance de l'eau, du partage de l'eau. Le fait, vous, de vous être regroupé, donc ça remonte à 2014, entre trois syndicats qui couvrent donc département Lozère, Cantal et Aveyron, ça part de quelle volonté ? Pourquoi vous êtes regroupé ?
C'est quelque chose qui était nécessaire, parce que d'abord, on avait un SAGE, donc un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui couvrait déjà pratiquement l'ensemble de notre zone de compétence actuelle. Et donc, on avait de toute façon des liens avec les syndicats d'Aveyron. Et puis, donc c'est une logique de bassin versant, si vous voulez, depuis... C'est la loi sur l'eau de 64 qui dit que la gestion de l'eau doit se faire à l'échelle d'un bassin versant. Et si on commence à couper à la frontière d'un département, eh ben, on n'est plus sur un bassin versant cohérent, quoi. Donc c'était indispensable de fusionner. Le Tarnamont l'a fait aussi. Et donc c'était dans la logique des choses, quoi. Ça permettait aussi de préparer, en 2018 est arrivée la GEMAPI, donc vous avez un peu parlé, enfin vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la gestion de l'eau, des milieux et des aquatiques et la prévention contre les inondations. C'est une compétence des communautés de communes qui devenait obligatoire. Quoi. Et de cette compétence-là, il peut y avoir un transfert à un syndicat de rivière. Donc c'est ce qui s'est fait pour notre bassin. Toutes les communautés de communes ont adhéré à notre syndicat. C'est une logique de bassin versant. Donc cette fusion était nécessaire, quoi. Alors après, par rapport au... aux partenaires, c'est quelque chose d'absolument nécessaire, quoi. On est, si vous voulez, le syndicat n'a pas pour but de travailler seul. On a, je vous ai parlé du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, il est fait par une commission qui s'appelle la commission locale de l'eau et qui réunit un certain nombre de structures pour lesquelles on a la moitié, ce sont des élus des collectivités, donc communes, départements, régions, syndicats d'eau potable. Pour 20%, c'est les administrations de l'État. Et puis pour 30%, c'est des usagers. Et donc cette commission-là, elle a en charge de guider en fait le territoire dans des actions qui sont concertées, quoi.
Y a une loi qui prévoit de faire passer la compétence, donc c'est une autre compétence, ça s'appelle eau assainissement, donc c'est celle dont vous parliez tout à l'heure, petit cycle de l'eau, c'est ça?
Oui.
Qui prévoit donc cette loi de faire passer cette compétence eau assainissement des communes aux intercommunalités en 2026. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens d'une gestion peut-être plus à échelle plus grande d'une gestion de l'eau?
J'ai du mal à répondre comme ça, parce qu'en fait, il peut y avoir des cas particuliers où la gestion communale fonctionne très bien. Moi, j'ai pu voir quand même que là où il y a eu des fusions, comme sur la communauté de communes du Gévaudan, ça a été plutôt bénéfique, quoi. Parce que certaines communes de la communauté de communes n'avaient pas des réseaux suffisamment bien tenus, avec des plans à jour, etc. Et ça a permis de professionnaliser la gestion de l'eau potable sur certaines petites communes, quoi.
Avec la sécheresse et la baisse du niveau des cours d'eau, hein, que ça entraîne et qui s'accentue de plus en plus, il y a d'ailleurs déjà un arrêté préfectoral là, qui a été déposé ce mois-ci pour classer en état de vigilance les bassins méditerranéens de la Lozère. Dans ce contexte, c'est quoi les priorités là, pour la gestion de l'eau qui s'imposent à vous, au syndicat, au moins pour cet été en tout cas?
Les économies.
L'économie
d'eau, c'est un peu comme pour l'énergie, hein. C'est toujours plus facile d'économiser que d'aller chercher des nouvelles ressources. Donc je pense que c'est surtout la chasse au gaspillage, hein, dans un premier temps. Et puis c'est du bon sens. Là où on manque de l'eau, c'est des interconnexions. Par exemple, hein, et puis après, on est en train de travailler aussi sur un inventaire des sources. Enfin, là, on ne l'a pas démarré, mais on a demandé là, des financements dans le cadre des fonds verts, donc des fonds État, pour faire un inventaire des sources, à la fois pour mieux connaître la ressource, parce que tout le monde... dans son village, c'est quand on a des sources qui se tarissent à une certaine période, il garde en mémoire, et c'est vrai que c'est un bon marqueur, l'état des sources. Et puis aussi par rapport à l'aspect biodiversité, parce que quelque part, c'est des micro-zones humides, avec parfois des espèces très spécifiques, notamment les libellules ou des bryophytes, donc des mousses. Qui sont très spécifiques de ces milieux-là. Et donc, on voudrait se lancer là-dedans. Donc, il y a un aspect aussi connaissance qui nous paraît important. Et puis ensuite, le travail du sol. Parce que, bon, on a une agriculture, on a de l'âge, on a cette chance quand même. Hein, grosso modo, si on regarde un peu à la louche, notre bassin, c'est 42%... des prairies en fait, et puis le reste c'est essentiellement de la forêt, et en fait c'est le Graal, quoi, pour la préservation de la source, c'est le mieux. Donc là où il faut être vigilant, c'est de surtout maintenir ça et de faire en sorte de préserver la qualité de nos sols, quoi. Donc éviter le tassement des sols, etc., et le labour, s'il est nécessaire, qu'il soit bien mesuré, parce que le sol, c'est le principal stock d'eau.
Et donc, pour établir donc, votre prochain programme de gestion des milieux aquatiques et pour faire un peu un état des lieux plus précis, il y a notamment en début de mois, c'est ce mois-ci, des étudiants d'AgroParisTech de Nancy qui sont venus, dans le cadre de leurs études, mais à votre service aussi un peu, quoi, étudier les bassins versants. Donc, c'était du Lot et de la Cologne. Est-ce que vous pourriez nous dire, ils ont restitué leurs travaux en partie la semaine dernière. Qu'est-ce que eux, ils avaient un regard neutre sur le territoire. Qu'est-ce qu'ils ont ciblé comme priorité pour préserver ces cours d'eau?
Alors, à notre service, c'est le mot, enfin, même si c'était aussi un travail d'étudiant, donc oui. Il y avait un rôle pédagogique, mais c'est vrai qu'ils ont travaillé à la manière d'un bureau d'études. Et c'était la demande de leurs professeurs de se mettre en situation de bureau d'études. Donc, effectivement, ils se sont pleinement endossé ce rôle-là. Et ce qui était intéressant, c'est surtout le travail avec les partenaires. En fait, ils ont fait une enquête auprès des différents partenaires. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'ils ont consulté des personnes qu'on n'a pas l'habitude, avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Quoi.
Par exemple, qui ?
Par exemple, nous, on a l'habitude, par rapport au monde agricole, de travailler avec l'association Le Copage et la Chambre d'agriculture. Et eux, ils sont allés voir la coordination rurale, les syndicats des jeunes agriculteurs, et ça a permis d'avoir d'autres éléments.
Discours,
quoi.
Ouais.
Et ensuite, par rapport au milieu forestier, en fait, les partenaires, on connaît bien certaines personnes de l'ONF avec qui on a des habitudes de travail, mais en particulier sur l'aspect des zones humides. Mais c'est vrai qu'on a peu travaillé avec les associations en lien avec la forêt privée, par exemple, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui était intéressant. Et après, au niveau des préconisations, alors y a plusieurs choses qui sont ressorties. Eux, ils ont fait, le diagnostic qu'ils ont fait sur le terrain, ils ont fait 12 km. Donc, c'est pas représentatif de l'ensemble du bassin, mais ça a permis de voir certains, entre guillemets, dysfonctionnements et de choses qui fonctionnaient pas mal. Donc, ce qu'ils ont pu voir, c'est que sur leur tronçon, ils ont vu qu'il y a 80% qui étaient fonctionnels avec une ripisylve, donc c'est le nom qu'on donne au boisement de bord de cours d'eau qui était en bon état, avec un beau cours d'eau fonctionnel. Et puis 20% qui l'est moins, pour diverses raisons. Soit on a des problèmes d'érosion de berges liés à un peuplement qui n'est pas adapté, parce qu'on sait que les épicéas, par exemple, c'est pas des essences qui sont adaptées au bord de cours d'eau. En plus de ça, les épicéas, ils sont réputés pour être des gros consommateurs d'eau. Mmh. Voilà. Et puis on a aussi ponctuellement sur le parcours, comme je le disais, on est une terre d'élevage avant tout, et c'est vrai que ponctuellement, c'est pas tellement la forêt qui posait problème, mais c'est l'abreuvement, par exemple, du bétail avec un accès direct et une déstructuration des berges qui peut être améliorée par un aménagement des berges, quoi.
Entendu. Donc voilà, restitution en partie de ces étudiants qui ont travaillé sur le territoire. Je propose qu'on revienne un peu plus globalement, généralement, sur le programme des rendez-vous du papillon fringant. Il y a un autre atelier que vous allez animer, Pauline Sabirou, qui portera sur un observatoire des saisons. Donc c'est une première rencontre à ce sujet a déjà été organisée le 26 avril à la médiathèque du Gévaudan. Trois autres rendez-vous sont proposés dans le cadre de ce programme du papillon fringant. Donc il y en a notamment un en juin et ensuite en septembre. Est-ce que déjà vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cet observatoire des saisons ?
Oui, alors tout à fait. Donc l'observatoire des saisons, c'est une science participative. Donc qui dit science participative, dit ouverte à tous et à toutes. L'idée cette année, c'est d'accompagner le grand public. Toujours, on reste sur le public du grand public, sur comment observer la nature. Quand je dis comment, c'est parce que en fait, on est tous dans la nature, on se promène tous dans la nature, mais on ne sait pas forcément l'observer. Donc l'idée de l'Observatoire des saisons, donc y a un site internet où on peut prendre justement des classifications. Nous, on en est parti sur les essences, donc les arbres. Et donc sur ce site internet-là, il y a, par exemple, au printemps, est-ce que j'ai des feuilles ? Est-ce que j'ai pas de feuilles ? Est-ce qu'il y a déjà des fruits sur les arbres ? Est-ce qu'il n'y a pas de fruits ? Est-ce qu'il y a des fleurs ? Donc l'idée, c'est vraiment, à travers une trame commune et accessible à tout le monde, on peut l'observer. Donc effectivement, c'était le 26 avril, donc c'est un peu dans la période du printemps. Nous l'avons fait à la médiathèque de Marvejols, donc toujours avec le grand public. Et c'était super intéressant parce qu'il y avait des enfants et les parents. Et on a observé trois essences différentes. C'était le lilas, le bouleau et un cerisier. Et du coup, on remplit une fiche par rapport à l'état de l'avancée des arbres. Et l'idée, après, c'est de retranscrire ces observations-là sur le site internet en question. Et l'idée, c'est de passer aux différentes saisons. Donc là, on a fait le printemps. Après, on va faire tout début été. Et après, plus vers l'automne. Et l'idée des sciences participatives, c'est que plus il y aura de personnes qui va effectuer ces observations-là chez elles ou dans la nature, là où ils ont l'habitude de se promener, plus justement on pourra faire un panel de l'observatoire de la saison. Sur, bon bah voilà, peut-être dans 5 ans, est-ce que le 26 avril, mon bouleau, il aura déjà des petits fruits ou des feuilles. Et l'idée justement, c'est de comparer les observations, les données, et de faire soit une statistique ou des courbes sur...
état des lieux, voilà. Et voir le changement climatique, quel impact ça au fil des saisons, est-ce que ça retarde ou pas la naissance de certaines plantes ou,
voilà, tout à fait.
Ou l'arrivée de certaines espèces. On peut peut-être préciser dans quel cadre ça s'inscrit, Olivier, j'ai oublié votre nom de famille, Cagnard. Olivier Cagnard.
Oui, bah, ça tombe bien parce que je pensais aussi qu'il me fallait absolument remercier toute l'équipe qui a participé et qui a élaboré. Je ne sais pas du tout moi qui ai imaginé peut-être, mais en tout cas, les petites mains, on est 7 salariés au réel. Il y a ma collègue Sandrine qui est co-directrice, voilà, je suis co-directeur. Et il y a surtout Manon, Marion, Émilie, Maëlle, voilà, je les ai citées.
Elles sont toutes citées.
et du coup, voilà, c'est toutes ces petites mains qui ont fait que ce programme a pu sortir. Ça a été un gros travail. Et du coup, la question, c'était...
Dans quel cadre ça s'inscrit? Parce que c'est au niveau régional qu'il y a tout un réseau d'observatoires des saisons qui est en train de se mettre en place.
Alors effectivement, par rapport à... c'est un dispositif qui s'appelle BioDivDoc, qui est porté par l'ensemble des CPIE. Là, on sort un petit peu du papillon fringant qui est spécifique au département. Et donc, les 13 CPIE d'Occitanie ont un programme pour développer les sciences participatives. Et comme l'a dit effectivement Pauline, les sciences participatives s'adressent au plus grand nombre. Et l'idée, c'est de mutualiser des données scientifiques par la population pour ensuite en ressortir des données qui sont exploitées, même au niveau du Muséum d'Histoire Naturelle. Beaucoup de dispositifs de sciences participatives sont coordonnés au niveau national par le Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà, donc c'était pour... J'ai répondu, je crois.
Et il y a aussi, je peux peut-être aussi préciser que, en fait, cet observatoire des saisons particulièrement, ça vient à la base d'une initiative d'un groupement de chercheurs du CNRS depuis 2007. Oui. Et petit à petit, ça s'est déployé au niveau national grâce notamment à l'association Tela Botanica, qui est basée à Montpellier, il me semble. Voilà. Et donc, cet observatoire des saisons, il fait partie de tout un réseau d'observatoires. Il y en a 11 en tout. Et là, vraiment, l'accent, c'est, comme vous l'avez dit, d'impliquer les citoyens dans cette collecte de données.
Oui, il y a plusieurs thématiques, effectivement. Ouais. C'était aussi ça l'idée, peut-être. Il y en a sur les insectes, sur les pollinisateurs. Voilà. Il y en a sur les plus spécifiquement sur les certaines variétés de plantes ou de papillons. Il y en a sur les lichens. Enfin, voilà, on a plein de sujets, effectivement, qu'on peut observer. Et ces données sont ensuite centralisées. Ouais.
Est-ce qu'on peut peut-être déjà rappeler le site sur lequel on peut aller remplir tout ça? Vous ne l'avez pas en tête. Tant pis, je le mettrai
sur le site. Tela Botanica.
Tela Botanica, on devrait le trouver. Petite dernière question qui s'adresse un peu à tout le monde. Elle est un peu vaste, mais vous allez me dire ce qui vous vient en premier, de plus marquant. Du fait de cet observatoire des saisons, où il est question d'observer la nature autour de nous, c'est aussi le principe des rendez-vous du papillon fringant. Vous, depuis que vous êtes engagé sur cette cause environnementale, quels sont les changements que vous avez observés les plus marquants en Lozère ces dernières années? On parle beaucoup de disparition d'espèces d'oiseaux, par exemple, de baisse des cours d'eau.
Ben alors, pour ma part, c'est une question qui est pas évidente. Il y a des associations naturalistes qui existent en Lozère, comme la LEP ou le Conservatoire d'espaces naturels, qui auraient peut-être plus de données naturalistes du coup à fournir. Après, pour ma part, moi, j'aurais plutôt une réponse à mon échelle individuelle. Je suis habitant. Je suis habitant de Lozère. J'habite au bord du Tarn. Et effectivement, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas eu de crue depuis longtemps. Enfin, au moins depuis. un an et demi, au moins un an et demi, deux ans. J'en ai pas vu vraiment de majeur. Après, il y a au niveau des insectes, ça on le constate, mais ça c'est à plus grande échelle. Hein. On a aussi des projets au réel sur les pollinisateurs sauvages, donc les insectes, hein, qui, autres que les abeilles domestiques, parce que ouais, les insectes pollinisent 80%. Des plantes, et donc et les abeilles domestiques 20, mais on constate tous une baisse des insectes. Il n'y a qu'à regarder nos pare-brises sur les autoroutes. Si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, on nettoyait régulièrement nos pare-brises. Aujourd'hui, ce n'est plus la peine. Donc voilà, c'est plutôt des choses sensibles comme ça. Après, sur la population des poissons, effectivement, je pense qu'on peut aussi constater qu'on entend des personnes âgées nous raconter leur pêche miraculeuse. Bon, bah, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Voilà, je ne sais pas après si quelqu'un d'autre veut préciser.
C'est toujours difficile de connaître les causes, mais effectivement, bon, les cours d'eau, c'est très fluctuant, quoi. On peut ne pas voir de crue pendant 30 ans et puis d'un coup en avoir 4 de suite, quoi. Donc c'est très difficile de dégager des tendances. Bon, malgré tout, par rapport aux sécheresses, elles sont largement de plus en plus récurrentes. On a moins de neige, ça c'est un fait indéniable, et ça se ressent sur les débits des cours d'eau, quoi. 2022, c'était une année historique en termes de baisse de débit. On a battu tous les records, quoi. Et le problème, c'est que là, cet hiver, on n'a pas eu d'apport suffisant. Et donc, la recharge actuelle, elle est en dessous de celle de 2022, pour l'instant, à la même période, quoi. Mmh. Bon, après, c'est dans les grandes masses, hein. Je ne vais pas détailler par cours d'eau, mais... Voilà. Et ensuite, sur la biodiversité, alors ouais, les zones humides aussi, c'est un point important.
J'allais vous en
parler.
On n'en
a pas parlé sur la partie Lozère de notre bassin, hein, juste le bassin du Lot-Amont. On a, j'ai perdu mes documents, bien sûr. J'avais ressorti
trop de feuilles sur
la table. On a 4500 hectares de zones humides sur le bassin du Lot, dont 3400 hectares référencés pour notre partie lozérienne. Bon, tout ça, ça bouge parce que les inventaires progressent, hein, mais c'est très important, ces zones humides-là. Alors, on voit le Conservatoire d'espaces naturels régulièrement, le COPAGE aussi, qui travaille sur les zones humides. Le CEN en particulier, qui a un gros historique de suivi des zones humides, nous dit bien que il y a 10 ans, quand même, il y avait plus d'eau, hein, dans les zones humides. Et c'est un peu embêtant parce que il en reste, mais elles ont été pour partie drainé à une époque, à l'après-guerre, etc., hein, mais qui a eu un peu d'intensification. Et ces superficies-là, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que c'est en grande partie eux qui nous apportent de l'eau dans les cours d'eau. Parce que si on prend un mètre carré pour un mètre cube d'eau, retenue, enfin c'est l'inverse, un mètre cube d'eau retenue dans un mètre carré, ce qui est une moyenne complètement hasardeuse, mais c'est pas grave, ça donne un ordre de grandeur. Ça vous fait 3400 hectares pour la partie juste du bassin du Lot, en Lozère, ça fait 34 millions de mètres cubes d'eau. C'est considérable. Donc là on a un gros barrage naturel qui est en plus réparti correctement sur l'ensemble du bassin, quoi. C'est ça qui est vraiment important à préserver, quoi. Donc
oui, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, notamment. Enfin, bon, c'est peut-être un gros mot, mais on revient à des choses naturelles, effectivement, de gestion de milieu.
Ouais, dont on avait oublié peut-être la fonction essentielle, et là, il s'agit de...
Qui sont des réservoirs d'eau très essentiels, et qu'on a, effectivement, comme tu viens de le dire, qu'on a cherché à drainer depuis des années, et que maintenant, il faudrait peut-être revoir nos pratiques. Ça y est, je l'ai dit.
Voilà, c'est dit. Il y a aussi des rendez-vous pendant le papillon fringant qui sont consacrés à... Alors, ces zones humides notamment, pas que.
Pas que. Alors, non, je voulais surtout mettre l'accent sur le 1er juillet. Donc, Pauline fait une intervention le 1er juillet, mais en parallèle, on a aussi un événement festif dans le cadre du papillon fringant. Ça sera. Alors, c'était annoncé à la forêt de la Loubière. C'est en train de se décaler peut-être sur le Blémard. Le lieu va vous être précisé. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut surtout s'inscrire. Vous avez le numéro à chaque animation. Et là, en l'occurrence, sur cet événement festif du 1er juillet, on aura une violoniste. Donc Laure Chapleur, on aura l'Alep qui fera une animation, on aura En compagnie des plantes avec Sophie Lemonnier qui fera une balade sur les comestibles et qui préparera aussi un petit apéritif avec des plantes sauvages. On aura le Pays d'Arrêt d'Histoire qui nous fera aussi une visite d'un site et d'une exposition et de la graine d'arbres pour les jeunes et les moins jeunes. On ira explorer la cime des arbres et avec aussi le partenariat avec Ballybrosse, le parc national. Donc là, ça, c'est le 1er juillet. Retenez la date. Retenez, n'hésitez pas surtout à vous inscrire parce que voilà, là, on est vraiment dans. On va être en pleine nature, mais on associe vraiment le côté. Balade naturaliste, botanique et biodiversité avec des artistes qui feront vivre différemment la nature. Quoi.
Et il y a un tout prochain rendez-vous très très proche puisque demain commence la fête de la nature et dans ce cadre-là, il y a aussi un événement proposé ce week-end. Il me semble, Pauline Sabirou.
Et du coup, tout à fait, la fête de la nature commence demain, donc c'est également un événement qui est national. Et au jardin de Coquelin-Lozère, on a répondu à cette fête de la nature, et c'est demain.
C'est demain,
le 24 mai, de 9h à 17h. Et dans ce cadre-là, de 9h à midi, il y a Jeanne des Ornithos. Initiation ornitho, balade, découverte sensorielle des chants d'oiseaux. Donc rendez-vous à Payers, au jardin Coquelin-Lozère. Et l'après-midi, de 14h à 17h, l'école de la vannerie de Mende vient nous faire une initiation vannerie. Donc c'est pour apprendre les techniques de base pour créer des mangeoires en osier.
Et si vous n'avez pas toutes les infos, vous pouvez retrouver tout ça.
J'allais le dire, le site. Pas d'inquiétude. Bon, je voulais juste, il nous reste 3 petites minutes, parler de ce projet-là que vous allez préparer, enfin que vous préparez déjà pour l'année prochaine au syndicat mixte et notamment avec vous, le Réel 48, sur la gestion de l'eau. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2-3 mots
Ouais, on vient de parler de zones humides, je regardais et vous parliez de ce week-end.
Ouais.
Donc le 27 mai, donc c'est samedi, il me semble. On a une sortie sur un espace naturel sensible au Mont Lozère, au col de Finiel. Voilà. Et donc,
c'est noté
pour
aussi.
Ceux qui, ça m'intéresse. Le projet Educo, l'Agence de l'eau avait lancé un appel à projet donc l'an dernier pour sensibiliser tout le monde à l'eau. Parce que c'est vrai que souvent, quand on essaye de sensibiliser, aux sorties, on a des gens qui sont déjà convaincus. Donc là, le but, c'est de déployer complètement tout ça et de faire quelque chose qui attire absolument tout le monde. Donc l'idée, c'est de travailler cette année avec le Réel et puis tous ses partenaires et puis d'autres personnes avec lesquelles on n'a pas encore l'habitude de travailler. On invite tout le monde à nous contacter pour monter tout ça. L'idée étant de travailler avec un peu toutes les associations volontaires, avec les écoles volontaires, pour une restitution en avril-mai à Mende dans le cadre de quelque chose d'un peu événementiel, festif et instructif.
Oui, ça peut faire du lien avec plusieurs. Je pense aux assises de l'eau, effectivement, où la préfecture est très impliquée. Ça peut être aussi l'occasion peut-être de valoriser quelque chose. Et puis aussi. On en a parlé en off, hein, mais voilà, pourquoi pas imaginer quelque chose aussi avec le théâtre de Mende. Donc on a le temps, c'est dans un an que ça se prépare, donc voilà, on lance des perches sur Mende, puisque, comme tu viens de dire, avril-mai 2024, une grosse journée sur l'eau où j'espère on y associera beaucoup aussi d'acteurs culturels et de l'environnement, vraiment faire ce lien-là, ouais.
Eh bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup Olivier Cagna, Pauline Sabirou, Guillaume Canard d'être venus aujourd'hui dans nos studios. Je rappelle donc que Olivier Cagna, vous êtes directeur du Réel 48, Pauline Sabirou, animatrice co-directeur, c'est ça qu'il fallait dire.
C'est ça.
Pauline Sabirou, animatrice du Jardin de Cocagne, et vous participez à certains des ateliers, vous les animez dans le cadre des rendez-vous du Papillon Fringant. Et quant à vous, Guillaume Canard, vous êtes directeur du syndicat mixte Lot d'Ourdou. Merci aussi à toi, Cyril.
De rien.
Pour ta chronique, on se revoit à la prochaine Happy Hour, j'espère.
Oh, j'espère aussi.
Donc vous pouvez retrouver tout le programme des rendez-vous du Papillon Fringant sur le site réel48.org, sur la rubrique « Avoir à faire ». Et quant aux informations que vous aussi vous délivrez sur votre site au syndicat mixte, donc je donne le site, c'est lot-dourdou.fr. Merci encore à tous les trois.
Merci.
Merci beaucoup.